Les étrennes de Bobèche. Pourquoi l'appelait-on Bobèche? Il n'aurait pas su le dire lui-même, mais personne ne lui donnait d'autre nom, excepté sa mère. Dans toute la rue Montgrand, où demeuraient ses parents, dans la rue Grignan, où se trouvait la grande poste, ainsi que dans les rues avoisinantes, tous les garçons de bureau et les petits employés connaissaient Bobèche, le jeune saute-ruisseau de la maison Reynardon et compagnie. Il passait dans ce monde-là pour un bon enfant, et quand il se rendait à la poste pour y chercher le courrier de la maison, il ne manquait pas d'échanger un bonjour amical avec deux ou trois douzaines d'autres gamins, lesquels étaient tous intimes. « Bobèche, as-tu des timbres nouveaux ?» lui criait l'un. « Bobèche, le courrier est en retard, faisons une partie de barre !» criait un autre. Bobèche ne savait à qui entendre. Sa popularité le gênait, surtout quand les camarades impatientés commençaient à le houspiller. « Laissez-moi tranquille, » disait-il sans se fâcher. Oh, les bonnes parties dont Bobèche était le héros dans la cour de la poste. C'était là, à cette époque, que se tenait la petite bourse des timbres oblitérés, là que se rencontrait deux fois par jour la fleur des bureaux environnants, l'espoir naissant du commerce marseillais. Il s'agissait bien du courrier. Rien ne réjouissait plus cette jeunesse que lorsque le chef des facteurs venait lui apprendre qu'il y avait une demi-heure de retard. Une demi-heure, autant de prix sur l'ennemi, c'est-à-dire le patron. Autant de gagner pour le jeu. En hiver, quand il pleuvait ou qu'il faisait trop froid, on descendait dans les caves de la poste auprès du calorifère et l'on s'y racontait des histoires. En été, les deux maigres platanes offraient un abri suffisant pour jouer aux billes et à mille autres amusements. Quelquefois, le patron, surpris de ne pas voir arriver ses lettres, venait les chercher lui-même. Grand émoi au camp des jeunes employés, qui tous prenaient alors une mine de circonstances et s'empressaient au-devant du personnage pour lui annoncer avec l'air d'en avoir mille regrets, les hypocrites, que le courrier était en retard. Ce soir-là, c'était le 31 décembre. Bobèche était revenu de la poste où il ne s'était pas trop longtemps attardé. Il était occupé à copier à la presse les lettres que le patron plaçait devant lui après les avoir écrites. Tout était silencieux dans le bureau quand M. Reynardon était là. L'on n'entendait que le grincement des plumes sur le papier et, de temps en temps, quelques mots échangés à voix basse par les commis à propos de leur travail. Aujourd'hui, le silence semblait plus religieux encore que de coutume. C'était le 31 décembre, le jour des augmentations, et chacun se demandait si la maison serait plus libérale à son égard que l'année précédente. Le teneur de livres, un homme chauve, à la vue affaiblie par 30 ans de labeur sous un bec de gaz, se prenait à espérer que le patron ajouterait quelques centaines de francs à son maigre traitement en considération de sa nombreuse famille. Le même rêve semblait bercer dans son coin le garçon de recette. Quant au caissier, il ne semblait point nourrir d'espérance. Peut-être savait-il déjà à quoi s'en tenir. Et Bobèche ? Bobèche était entré dans la maison depuis 6 mois. Il était parvenu à l'âge de 12 ans et ne touchait encore qu'un traitement de 15 francs par mois. Il lui semblait en bonne conscience que cette rétribution n'était point proportionnée à ses importantes fonctions. Outre le courrier qu'il fallait aller chercher tous les jours et la copie des lettres, n'avait-il pas encore le classement, le répertoire de toutes les pièces? Ne faisait-il pas les courses en ville? Tout cela valait certainement 25 francs par mois, au bas mot. C'est ce qu'on lui avait dit aujourd'hui à la poste, où tous les camarades lui avaient exprimé leur espoir d'être augmentés eux-mêmes. Et Bobèche se représentait la joie de sa mère, quand, arrivé à la maison, il lui dirait « Devine, 25 francs, presque 20 sous par jour !» Bobèche se prenait à espérer qu'en considération de cette augmentation considérable, sa mère voudrait bien, quoique pauvre, lui laisser 40 sous par mois pour ses menus plaisirs. L'heure du paiement a sonné. Le patron a déjà appelé le teneur de livres dans son cabinet. Bobèche rougit et tremble à sa place. L'espoir, la crainte se balancent en son esprit. Enfin, il n'y tient plus. « Croyez-vous qu'il m'augmentera ? » souffle-t-il au garçon de bureau. « Peut-être, » répond celui-ci laconiquement. Mais pour des étrennes, n'y compte pas, ce n'est pas l'habitude de la maison. Enfin, le tour de Bobèche arrive. « Monsieur, » répond-il à l'appel de son nom, et son émotion est telle qu'il a failli se jeter à bas du tabouret sur lequel il était perché. « Jeune homme, dit le patron d'un air sévère, je ne suis pas très content de vous. Vous restez longtemps en course, particulièrement quand vous allez à la poste. Les lettres ne sont pas très bien copiées. Monsieur, ne m'interrompez pas. Enfin, vous êtes encore bien jeune. J'ai 12 ans passé, monsieur. Ne m'interrompez pas, vous dis-je. Les affaires n'ont pas été brillantes cette année. Nous ne pouvons pas encore vous augmenter. » En 3 ou 4 mois peut-être, mais il faudra que nous soyons plus contents de votre travail. Allez, ah, à propos, vous n'avez pas besoin de venir nous souhaiter la bonne année demain. Nous n'avons pas l'habitude de recevoir nos employés ce jour-là. » Boubèche rentra dans le bureau anéanti. Tous ses rêves avaient disparu. Le caissier lui compta ses 15 francs. Les employés partirent. L'enfant resta seul avec le garçon de bureau. Il était accroupi à sa place et sanglotait. « Pauvre Boubèche, dit le garçon de recette, tu comptais sur une augmentation. Tu n'es pas assez vieux dans le métier, mon enfant. Allons, console-toi, il t'a dit que les affaires avaient mal marché, hein, ou que tu n'as pas encore assez travaillé. Pauvre petit, à 12 ans, allons, ne sera pas dit que tu seras parti d'ici sans emporter des traînes. Tiens, Boubèche, et ne pleure plus. » Et le brave homme mit dans la main du jeune garçon une pièce de 20 sous. « C'est pour acheter des papillotes. Allons, adieu, tu me diras merci en me souhaitant la bonne année après-demain. » Boubèche sortit en essuyant ses larmes, et le garçon de bureau s'empressa d'éteindre le gaz avant de regagner à son tour le 5e étage où sa femme l'attendait. Quelques instants après, les pleurs de Boubèche étaient séchés. Il avait presque oublié sa déconvenue en longeant la rue Saint-Féréol, merveilleuse ce soir-là. Quels étalages aux vitrines des boutiques! Les 20 sous du pauvre enfant sautaient de même hors de sa poche, comme s'ils étaient mis en fièvre par le voisinage de tant de belles choses. Mais quel rapport pouvait-il y avoir entre ces jouets magnifiques, ces parures, ces trésors de toute espèce, et la pièce blanche de Boubèche? Aussi regardait-il tout cela d'un œil désintéressé. Il y a chez le pauvre moins d'envie qu'on ne le prétend. L'habitude de se passer des choses de luxe lui annote le désir. Il jouit de les voir sans les posséder, tandis que beaucoup de riches les possèdent sans les voir et n'en jouissent pas. C'est ainsi que Dieu, dans sa providence, établit des compensations. Chemin faisant, Boubèche se demandait quel usage il ferait de ses 20 sous. Il n'avait à attendre des traînes de personne. Sa mère, dont il commençait à être le soutien, étant trop pauvre pour lui en offrir. Soudain, il revit un esprit dans la petite cour qu'ils habitaient à Saint-Lazare, le pâle visage de Marie, sa petite voisine, son amie d'enfance. Marie, que la maladie tenait clouée au lit depuis plusieurs mois, et dont les parents étaient plus pauvres encore que sa mère à lui. « Tiens, se dit-il, c'est une idée, si je faisais des étrennes à Marie. »« Et qui t'en fera à toi ?» dit une voix intérieure. « C'est vrai, tout de même. Il est pourtant bien juste que je m'offre quelque chose avec mes 20 sous. Mais Marie est malade, un petit cadeau lui fera plaisir. » « Bah, tant pis, je saurais bien m'amuser sans argent. Il faut que j'offre des étrennes à Marie. » Cette décision, une fois prise, il restait encore une affaire très importante, le choix du cadeau. Boubèche se hâta de quitter la rue Saint-Féréol. Il sentait bien que dans ses riches boutiques, il n'y avait rien pour lui. Il gagna le cours Belzunce, où se tenait alors la foire aux centons. La foire aux centons est à Marseille ce que la foire au pain d'épices est à Paris. C'est l'une des vieilles coutumes locales qu'aucune révolution n'a renversée. De temps immémorial, le commerce de petites crèches en bois ou en écorce de liège, garnies d'un petit Jésus, d'un Saint Joseph, d'une Sainte Vierge en plâtre, avec des anges suspendus au plafond par de trop visibles fils de fer, et des bœufs, des ânes, des chameaux à profusion. De temps immémorial, dis-je, ce commerce s'est fait à Marseille, à l'époque de Noël. La fabrication de ces crèches est évidemment une industrie du pays. Saint-Joseph a l'air d'un vigoureux paysan provençal, et les bergers que l'on voit arriver par une échelle et sur les flancs d'un rocher en carton peint portent un costume plus européen qu'oriental. Devant l'enfant Jésus, on place ordinairement un petit quinquet qui brûle sans cesse, et toutes ces lumières brillant dans chacune des boutiques provisoires érigées dans la foire produisent l'effet le plus pittoresque. Depuis quelques années, faut-il s'en réjouir ou s'en affliger, la foire aux centons se modernise, se laïcise, comme nous disons aujourd'hui. On y vend moins de plâtre et plus de sucre. Les pantins et les toupies font une sérieuse concurrence aux vénérables mages et à leurs chameaux. On y voit brûler moins de quinquets et plus de becs de gaz. Ainsi s'en vont peu à peu les vieilles institutions. Évidemment, nous marchons vers l'effondrement général. Boubèche ne pensait guère à tout cela en arrivant sur le cours. Il n'avait qu'une idée, trouver quelque chose qui ne valût qu'un franc et pût plaire à Marie. Une poupée. L'idée paraissait bonne tout d'abord, mais Boubèche ne tarde pas à la rejeter. Une poupée, c'est si banal. Ah, si ces petites crèches n'étaient pas trop chères. Tout à coup, il avise un objet nouveau. C'est un délicieux bébé de cire délicatement posé sur 4 brins de paille dans quelque chose qui ressemble à un panier. Un vrai petit Jésus, tant il est ressemblant. Ses pieds et ses mains ont l'air de bouger. On dirait qu'il gazouille et se trémousse comme on le voit faire aux petits enfants accoutumés à rester éveillés dans leur berceau. Voilà mon affaire, pensa Boubèche. Combien ce petit Jésus ? Demanda-t-il à la marchande. Celui-là, 2 francs, mon garçon. Ah, c'est trop cher, murmura Boubèche désappointé. Trop cher ? Un Jésus tout en cire et qu'on dirait qu'il est vivant. Mais regarde-le donc. Semble-t-il pas qu'il va parler ? On voit bien que tu n'as pas envie de l'avoir, mon petit. Oh, que si, soupira Boubèche. Qu'est-ce que tu veux me faire ? Tu es trop grand pour t'amuser de ces choses-là. C'est pour une petite qui est malade, reprit le jeune garçon. Pécaire, et est-ce vrai ? Reprit la marchande. Et combien m'en donnes-tu de mon petit Jésus ? Je n'ai que 20 sous à dépenser, dit Boubèche. 20 sous ? Eh bien, prends-le, Pitchoun, seront de moitié dans ton cadeau à la petite. Et Boubèche, heureux au point d'oublier tout à fait qu'il n'avait pas eu d'augmentation, emporta le Jésus de cire en remerciant la bonne marchande. Le brave garçon de bureau, qui mangeait sa soupe à ce moment-là, ne se doutait pas que sa générosité en avait engendré une autre, puis une autre encore, et que sa pièce de 20 sous faisait la boule de neige en courant sur le cours. Boubèche, portant son tout petit Jésus comme s'il eût été vivant, tant il avait peur de le casser, remonta la rue d'Aix et s'enfonça dans le quartier Saint-Lazare. Arrivé dans la cour où il demeurait, son premier soin fut d'entrer chez Marie. Celle-ci logeait avec ses parents dans une misérable chambre à laquelle on arrivait par un escalier extérieur vermoulu. Le père était ivrogne, la mère, blanchisseuse, avait à pourvoir seule aux besoins du ménage. Rien d'étonnant que la misère eût élu domicile dans ce logis. Dans un coin, sur un lit composé de quelques planches et d'une paillasse, la petite fille était couchée. Ses yeux noirs brillaient de fièvre, mais son visage avait une expression douce et paisible. « Bonsoir, Marie, » dit Boubèche doucement en entrant dans la chambre. « Je t'apporte tes étrennes. Je n'ai pas voulu attendre jusqu'à demain matin. »« Des étrennes, à moi ? Tu es bien gentil, Boubèche. » Même ici, le petit employé était connu par son sourire. « Qu'est-ce que c'est donc ?» demanda Marie en se soulevant à demi sur son lit. « Regarde, » dit le jeune garçon en découvrant le bébé de cire, « un petit Jésus. »« Merci, Boubèche, merci. Comme il est joli, ton cadeau. C'est de la foire que tu me l'as rapporté ?»« Oui. »« Regarde, mère, » dit la petite malade, « on le dirait vivant. C'est Boubèche qui me le donne. » La mère venait d'entrer, un seau à la main. Elle s'extasia comme de juste devant le cadeau. « Mon Dieu, qu'est-ce beau ? » répétait-elle en joignant les mains après l'avoir admiré. « Toi qui es si pieuse, » dit Boubèche à Marie, « j'ai pensé que tu aimerais ça. Tu pourras y dire tes prières chaque matin, sensément comme si c'était un Christ suspendu près de ton lit. » Marie devint grave soudain. « Je n'ai pas besoin de ça, » dit-elle. « Je vois le Seigneur Jésus sans cela. » Quelquefois, je le vois dans sa crèche, ou bien lorsqu'il prenait des enfants dans ses bras, ou bien lorsqu'il guérissait les malades. D'autres fois, je le vois sur la croix, et même il me regarde. Tu as donc un livre d'images ? Non, je n'ai pas d'images. Alors c'est quand tu rêves que tu vois Jésus ainsi ? Non, je ne rêve pas. Ah, par exemple, fit Boubèche étonné. C'est là que ça se passe, dit-elle en mettant sa main sur son cœur. J'ai un livre où il n'y a pas d'image, mais qui raconte toute l'histoire de Jésus. Et maintenant que je ne puis plus le lire, ça me revient la nuit. Quand je ne dors pas, je ferme les yeux, tout de même, et c'est alors que je revois toutes ces choses. Par exemple, le bon berger qui porte son agneau sur ses épaules. Eh bien, quelquefois, c'est comme si je voyais son portrait sur la muraille, mais un portrait vivant, puisque je l'entends parler. Et qu'est-ce qu'il dit ? Oh, des choses que j'ai apprises dans le livre qu'on m'a donné à l'école du dimanche. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je les appelle par leur nom et elles me suivent. Alors je lui parle et lui dis « Bon berger, appelle-moi » et il me répond « Voici, je viens bientôt ». C'est encore une parole qui est dans mon livre. « Je voudrais bien que tu me le prêtes, ton livre, » dit Bobèche. « Oui, je veux bien te le prêter. Prends-le là, sur l'étagère. Tu le garderas tant que je serai malade et tu viendras me le lire quelquefois. Et puis, écoute, garde-le tout à fait. Ça sera tes étrennes. Tu m'as donné un petit Jésus. Moi, je t'en donne un autre. Tu verras son histoire dans ce livre. » « Mais toi, tu en auras besoin, » dit le petit garçon. « Oh, moi, » répondit Marie, « je ne crois pas. Tout à l'heure, avant que tu viennes, quand j'étais seul dans la chambre, si tu savais ce que j'ai vu, je n'étais plus ici. J'étais dans une grande salle où se trouvaient beaucoup de gens. J'étais couché sur mon lit et je voyais sur un beau fauteuil de velours Jésus assis devant moi. J'avais peur. Il était si beau, si bien habillé, si brillant. Mais il me dit, « Veux-tu être guéri ?» Alors j'ai répondu, « Oui, Seigneur. » Et tout à coup, je me suis trouvé debout. Le lit avait disparu, et moi aussi j'étais habillé tout en blanc, comme ceux qui étaient là, comme Jésus lui-même. « Et qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda le petit garçon. « Je ne sais pas, mais je pense, » ici la petite fille baissa la voix, « je pense que cela veut dire qu'il viendra bientôt me chercher pour aller au ciel. » « Mais non, puisque tu seras guéri. »« Oui, mais pas dans cette chambre, » répondit Marie avec un sourire. « Adieu, Bobèche, merci pour ton cadeau. Tiens, prends tes étrennes. » Bobèche rentra chez lui et remit à sa mère les 15 francs de son mois. « Eh bien, pas d'augmentation ?» demanda-t-elle. Le petit garçon secoua la tête. « Et pas d'étrennes non plus ?»« Des étrennes ? Ah si, Marie vient de m'en donner. » « Marie ?» « Des étrennes de Marie ? Tu es fou, je pense. Tu veux dire ton patron ?»« Non, le patron ne m'a rien donné. Mais Marie vient de me faire un cadeau. C'est un livre. »«
Nous avons besoin d'autre chose que de livres, mon pauvre garçon. »
Et la mère passa dans la cuisine sans attendre de nouvelles explications, vexée de l'insuccès de son fils. Le lendemain, Marie était guérie. On la pleura longtemps dans la vieille cour. Bobèche n'a pas de plus cher trésor que son livre, son petit Nouveau Testament. Les seules étrennes qu'il ait reçues ce jour-là, outre les 20 sous du garçon de bureau.